d'apporter un petit message. Si je prends ma micro, c'est bon, François. Ça va? Alors, on m'a proposé en fait de faire un thème sur vivre le bonheur. Un thème que vous devez suivre, je crois, au niveau national ou régional. Je ne sais plus trop. On m'a donné aussi une régionale. On m'a donné aussi une base de versets bibliques. Mais forcément, l'esprit m'a parlé d'une autre façon. J'aimerais vous parler, en fait, ce soir, comme on l'a dit déjà depuis tout à l'heure, de la présence de Dieu, Shekinah. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont des Bibles ? Pour ceux qui ont une Bible, vous pouvez l'ouvrir dans Exode 33. Oui, c'est au début. Deuxième livre. Shekinah, en fait, qui est une déviation du mot hébreu, shakan, qui veut dire habitation de Dieu. Dieu qui dit je viens habiter, rester, demeurer avec vous. Et le désir de Dieu, plus que de nous visiter, c'est vraiment de demeurer et d'habiter avec nous. Il y a une différence dans la Bible entre les visites de Dieu et l'habitation de Dieu. Et ultimement, le désir de Dieu n'est pas seulement de nous visiter, mais vraiment d'habiter Shekinah. Dieu désire habiter avec nous. Tout à l'heure, Toots l'a dit, Dieu est omniprésent, c'est-à-dire qu'il est partout, mais il n'est pas omnimanifeste. Et la Shekinah, c'est en fait l'habitation manifeste de Dieu, la présence de Dieu. Et le Seigneur désire ouvrir notre foi pour que nous puissions comprendre que nous sommes appelés à vivre dans la présence de Dieu constamment et dans cette habitation de Dieu. Il y a parfois des choses qui peuvent nous empêcher de vivre dans cette habitation, dans cette présence continuelle de la présence de Dieu. Et ce soir, on va regarder à une pensée très importante sur ce mot Shekinah, sur la présence de Dieu. Dans l'histoire de l'humanité, il y a toujours eu, depuis la Genèse dans la Bible, et il y en aura toujours jusqu'à la fin des temps, des hommes et des femmes qui ont cru que Dieu pouvait marcher avec eux. Dès la Genèse, des hommes et des femmes ont cru à travers toute la Bible qu'ils pouvaient habiter continuellement et habiter dans la présence de Dieu, dans leur maison, dans leur foyer et dans leur église. Et il est très important que le groupe, qu'en communauté, tous en commun, on croit et on espère vraiment que Dieu désire habiter de plus en plus dans le groupe au milieu de nous. Et cette présence de Dieu, elle est mesurée, c'est-à-dire qu'on peut la sentir, on peut la mesurer. Et dans l'Ancien Testament, on peut connaître une plus grande mesure de la présence de Dieu, et chaque groupe a une mesure de la présence de Dieu. Et pour moi, c'est très important en tant que, on va dire, grande sœur du STK, de vous parler en ce début d'année, pour les futures années à venir, que nous puissions connaître et vraiment espérer une mesure plus grande de la présence de Dieu dans le STK. Vous savez, lorsqu'on fait des réunions, on désire, on prie, souvent, on l'a prié tout à l'heure aussi, on demande à Dieu de venir nous visiter. Lorsqu'on va à des retraites aussi, des événements religieux, des conférences, des pulses, des alphas, on demande à Dieu de venir nous visiter et on pense que Dieu va venir nous visiter d'une façon particulière. Notamment dans une retraite, c'est très bien. Mais comme je l'ai dit depuis tout à l'heure, Dieu veut beaucoup plus. Il est beaucoup plus grand qu'une retraite, il est beaucoup plus grand qu'un événement religieux. Et on ne peut pas juste contenir Dieu et, à une retraite parce qu'il est beaucoup plus grand. Et Dieu veut plus qu'un moment dans ta vie. Il veut régulièrement te toucher et il veut vivre avec toi. Même quand tu es chez toi, Dieu veut te toucher dans ton cœur. Quand tu es au travail, Dieu veut te toucher. Quand tu es à l'école, il veut être avec toi. Et maintenant, parfois, c'est nous-mêmes qui croyons que Dieu ne peut pas nous toucher vraiment, à part dans ces moments spéciaux de retraite, de conférence. Mais toutes les prophéties du Nouveau Testament convergent vers cette promesse de Dieu qui dit qu'il veut vivre avec nous, qu'il veut nous toucher, qu'il veut nous visiter et bien plus encore, et qu'il veut habiter au milieu de nous. Et à chaque réunion, notre foi, notre prière, c'est vraiment de dire: Seigneur, viens nous visiter, viens avec nous. Et le grand défi de l'Église et du groupe de jeunes du STK, c'est pas d'avoir de plus en plus de gens qui viennent, à l'Église ou au STK, mais c'est vraiment d'avoir Dieu qui vienne dans le groupe, qui vienne dans l'Église. On peut rencontrer des groupes, on peut côtoyer des groupes où il y a beaucoup, beaucoup de gens qui viennent, mais Dieu n'est pas là. On peut avoir des groupes, des tout petits groupes, mais on sent vraiment qu'il y a la présence de Dieu et que Dieu est là. Il peut y avoir des groupes où il y a beaucoup de personnes et Dieu est là, et des groupes où il n'y a pas beaucoup de personnes et Dieu n'est pas là. Il y a vraiment de tout, mais mon désir, notre désir, je l'espère, c'est d'avoir pour ce groupe la présence manifeste de Dieu dans ce groupe, avec des jeunes qui veulent demeurer dans sa présence. On peut vivre ça, on peut vivre cela, de plus en plus habiter avec Dieu dans ce groupe, dans votre vie, mais ça dépend de notre attitude, ça dépend de notre cœur, ça dépend de nos préparatifs, de notre foi ou de nos prières. Et c'est ce qu'on va voir ensemble. Il y a un homme qui a vraiment voulu, qui a désiré plus qu'une visite de Dieu, qui a vraiment voulu que Dieu vienne et qu'il marche avec lui et avec son peuple. Vous le connaissez peut-être déjà très bien ou pas. Cet homme, en fait, c'est Moïse. Dans Exode 33, je vous invite à le lire chez vous. Peut-être qu'il y aura des choses qui vous percuteront quand vous le lirez vraiment chez vous. En fait, dans Exode 33, on se trouve juste après l'histoire du veau d'or. Je pense que vous connaissez cette histoire. Elle a été adaptée au cinéma, à Hollywood, on les a vus dans les films. Tout le monde connaît cette histoire du veau d'or. Alors que le peuple, en fait, d'Israël s'est fait un veau d'or, Dieu est avec Moïse sur la montagne pendant 40 jours. Je vous remets un petit peu le contexte. Et Dieu est irrité parce que il est en colère, il veut détruire le peuple parce qu'ils ont fait ce veau d'or. Et il dit: je suis tellement en colère de ce qu'ils ont fait. Et Moïse, lui, par contre, il intercède pour son peuple et il dit, il demande à Dieu de retirer son jugement, de faire grâce à son peuple. Et il va dire à Moïse dans Exode 33: je ne peux pas aller avec vous parce que vous et moi, ton peuple et moi, on est trop différents. C'est un peuple qui est rebelle, c'est un peuple qui est insoumis, et il y a tellement de contrastes entre qui je suis, moi, Dieu, et vous et ton peuple qui a une mauvaise attitude. Et Dieu dit: je ne peux pas aller avec vous. Mais, vous le lirez, mais il dit: je ne peux pas aller avec vous, mais j'ai promis à vos pères, à vos ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob. J'ai promis que je leur donnerai la terre promise Canaan. Alors Moïse, voici ce que je vais faire. Il fait un genre de deal avec Moïse. Je ne vais pas aller avec vous, parce que ce serait vraiment trop difficile pour moi. Et Dieu dit: je vais faire quand même quelque chose. Je vais envoyer un ange. Je vais vous donner toutes les promesses que j'ai faites à vos ancêtres. Je vais vous donner toutes les victoires. Je vais chasser de devant vous vos ennemis. Je vais vous donner la terre promise. Je vais vous donner des maisons. Je vais vous donner des vignes. Je vais vous donner une prospérité, des bénédictions. Je vais pourvoir à tous vos besoins. Mais moi, je ne veux pas aller avec vous. Et Moïse, à ce moment-là, se lève avec une prière qu'on a dans Exode 33, verset 16. Il dit « Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, ainsi que ton peuple ? Ne sera-ce quand tu marcheras avec nous et quand nous serons différents, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont à la surface de la terre ?» À ce moment-là, en fait, Moïse intercède auprès de Dieu et il lui pose une question. Il lui dit « À quoi reconnaîtra-t-on que nous avons trouvé grâce à tes yeux ?» Juste pour revenir brièvement sur l'histoire de Moïse. Moïse, en fait, si vous relisez son histoire, Exode, c'est un peu son histoire, au début, vous verrez que Moïse, en fait, avait dans sa vie un grand vide. Il a connu une période vraiment vide à l'intérieur. Blaise Pascal a dit « Il y a un vide dans l'homme qui a la forme de Dieu. » Et quand Moïse est venu au buisson ardent, c'est dans Exode 3, vous connaissez peut-être déjà l'histoire, c'était vraiment à ce moment où il était vraiment vide à l'intérieur. Et plus qu'un buisson, c'était beaucoup plus que miraculeux de voir ce buisson, Dieu parler au travers de ce buisson. Et il y avait là une présence de Dieu qui a comblé sa vie. Et Moïse a trouvé là, à ce moment-là, dans ce chapitre de Exode 3, au moment du buisson ardent, une présence environnante de Dieu. Et une puissance, vraiment une présence qui a fait que, qui a comblé sa vie à un tel point, je ne sais pas si nous, on pourrait le faire à un moment donné, mais à un tel point de dire Dieu lui dit « J'enverrai tout ce dont vous avez besoin à Canaan. » Mais Moïse dit non. Il dit « Moi, je veux rester ici. Je préfère encore rester dans le désert avec toi qu'aller dans le pays de Canaan, dans la prospérité, dans les bénédictions matérielles sans toi. » Je ne sais pas si nous, à notre niveau, on serait capable de faire ça. Et Moïse dit à Dieu, « Si tu ne viens pas avec nous, moi, je ne veux pas y aller non plus. » Et le cœur de son argumentation, quand il parle avec Dieu, parce que c'est vraiment une discussion qu'il a avec Dieu, il dit, « Qu'est-ce qui fait que nous serons différents, nous, peuple d'Israël, des autres peuples ?» Et Moïse savait en fait que ce qui fait la différence entre le peuple de Dieu et un peuple, on va dire, des chrétiens et des non-chrétiens, c'est vraiment, c'est pas la réussite personnelle, c'est pas sa vie, c'est pas les victoires qu'on a pu avoir dans notre vie, c'est pas parce que Dieu pourvoit, c'est pas parce que Dieu nous protège, c'est pas parce que Dieu peut faire plein de choses dans notre vie, et il peut les faire à distance. Il n'a pas besoin d'être à côté de nous. Mais ce qui fait la différence entre le peuple de Dieu et les autres peuples, c'est la présence de Dieu. Et j'aimerais vous dire ceci, c'est que ce qui fait la différence entre le peuple de Dieu et toutes les autres croyances qu'il peut y avoir sur terre, c'est même pas la doctrine, c'est même pas la religion, la façon de dire comment on prie, c'est une seule et même chose, c'est la présence de Dieu. Et face à cette présence de Dieu, personne n'est neutre. Soit on peut dire, moi je veux vivre dans cette présence et j'embrasse cette présence, soit on fuit. On ne peut pas être neutre face à la présence de Dieu, ce n'est pas possible. Et ce qui va vraiment marquer la différence entre le peuple de Dieu et tous les autres peuples, c'est pas pour revenir un petit peu à notre époque, c'est pas juste un style de musique qu'on fait, c'est pas l'éloquence d'un prédicateur, c'est pas un programme, une organisation. Toutes ces choses-là, c'est ce qui va vraiment faire la différence, c'est la présence de Dieu au milieu de nous. Et maintenant, je parle depuis tout à l'heure de la présence de Dieu, mais qu'est-ce que c'est vraiment la présence de Dieu ? On peut avoir toutes sortes d'interprétations, on a toutes sortes d'opinions sur ce qu'est la présence de Dieu. Et on ne va pas regarder juste un livre quelconque ce soir, mais on va regarder à ce que dit la parole de Dieu. Et j'aimerais vous dire ce soir que tous les hommes dans la parole, dans la Bible, qui ont été au contact de la présence de Dieu, la première chose qu'ils ont vue de Dieu, est-ce que vous savez ce que c'est ? La première chose qu'ils ont vue au contact de la présence de Dieu, c'est pas l'amour de Dieu, c'est pas sa grâce. Ce qu'ils ont vu en premier, c'est la sainteté de Dieu. Quand Ésaïe et d'autres personnes dans la Bible ont vu les anges, les séraphins se tenir devant Dieu, la Bible nous dit, ils ne criaient pas « Amour, amour, Dieu est tellement amour ». C'est pas ce qu'ils criaient. Les séraphins, les anges criaient « Saint, Saint, Saint est le Seigneur ». Pour note, c'est aussi ce qu'on dit à l'Église lors de la Sainte Cène. Et une telle sainteté, une telle vérité dans la personne de Dieu. Il faut connaître la sainteté de Dieu avant de connaître l'amour de Dieu. Parce que si on connaît sa sainteté, on saura que son amour est vrai. Et son amour ne décevra pas. Dieu est saint. C'est donc la première chose qui arrive quand on est au contact de la présence de Dieu et qu'on ressent sa sainteté. Et cette sainteté fait un contraste avec notre indignité. Quand Dieu est là, la première chose que tu sens, c'est que tu es indigne, c'est que tu ne mérites pas. Et la première chose qui monte à la surface, c'est qui on est vraiment. Une image, j'espère qu'il va vous parler, pour illustrer un petit peu ce que je suis en train de vous dire, simple, mais qui va un petit peu nous aider à comprendre. Imaginez, je vous transporte des années, des siècles en arrière. On retourne au Moyen-Âge. On va au port du Havre. Je plante le décor. Un soir d'hiver, sombre, ténébreux. Et on entre dans une taverne avec des marins. Et vous savez, à l'époque, ces lieux-là, c'était des lieux vraiment pour régner une atmosphère de péché, vraiment une atmosphère, une mauvaise atmosphère. Et imaginez, on entre dans une taverne, on voit des marins en train de boire de l'alcool, en train d'être vulgaires, en train de dire des gros mots. Voilà, il y a des endroits comme ça parfois où on rentre, on sent que les ténèbres règnent à l'intérieur. Et imaginez, c'est très, très hollywoodien, un roi arrive dans la taverne. Il arrive, il ouvre juste la porte avec des vêtements propres, une pureté, une majesté dans la personne. Et imaginez juste la scène, je pense que vous l'avez déjà vue dans un film, pas forcément avec des marins, mais vous l'avez déjà vue dans un film. Hein ?
Superman, il a dit.
Oui, Superman, peu importe, le Hobbit, ça marche aussi. Où le roi rentre et tout de suite, les marins, j'ai rien contre les marins, hein. Mais imaginez-vous quand même qu'à l'époque, c'est pas les marins qu'on connaît aujourd'hui. Les marins, ils sentaient mauvais, ils pêchaient du poisson, ils étaient sales, ils étaient vraiment... Et le roi entre dans la pièce, il a encore rien dit, et juste au contact de sa personne, les marins sentent qu'ils ont dit des gros mots, ils sentent qu'ils ont été vulgaires, qu'ils sont pas propres, pas bien coiffés. Qui ne sont pas bien rasés, qui ne sont pas un peu avachis sur leur chaise, et ils sentent aussi qu'ils ne sont pas bien vêtus. Et en fait, on ressent, ils ont ressenti, ils doivent ressentir ce qui est vrai. Mais sans l'arrivée du roi, tout ça, ils ne le voyaient pas. Et quand Dieu entre, quand la présence de Dieu, en fait, vient, la première chose qu'on ressent, c'est vraiment ce contraste qu'il peut y avoir entre nous et la sainteté de Dieu. La deuxième chose qu'on ressent, c'est la présence, dans la présence de Dieu, ce sont les fruits de l'esprit. On a souvent parlé de ce verset de Galates 5, verset 22, avec les fruits de l'esprit. Et la Bible dit que Dieu est amour et qu'il est trois fois saint, et que dans cette sainteté, Dieu veut quand même venir vers nous qui sommes si indignes, et il veut nous changer. Et la deuxième chose qu'on ressent lorsqu'on est dans la présence de Dieu, c'est l'amour de Dieu. La troisième chose qu'on ressent, c'est la joie, la paix, les fruits de l'esprit. Quand on est dans la présence de Dieu, il y a une joie. C'est pas une exubérance, c'est pas qu'on est survolté, c'est pas, voilà, c'est pas un truc un peu foufou, c'est juste une joie à célébrer, à se sentir pardonné, à se savoir pardonné. Il y a juste une joie de se savoir accepté dans la présence du roi et dans sa sainteté. Et après, la joie vient, la paix. On est bien quand on est dans la présence de Dieu. J'espère que vous savez de quoi je parle. Quand on a eu, par exemple, une bonne réunion dans la présence de Dieu, dans le groupe, dans l'église, peu importe où, et quand on rentre chez soi, on a une paix, vraiment une paix, on se sent en paix, on se sent bien. Et le prochain fruit de l'esprit, c'est la patience. Quand on a la paix, on devient patient. Et tous ces fruits de l'esprit, tous les autres fruits de l'esprit viennent. Quand on est dans la présence de Dieu, tous les fruits de l'esprit suivent. Et aujourd'hui, on peut avoir beaucoup de définitions de la présence de Dieu. Et il y a peut-être même des gens qui pensent que quand Dieu est là, il peut y avoir des trucs bizarres qui se passent, un espèce de désordre, un brouhaha, vous savez, comme on voit des fois à la télé, quand il y a des grosses manifestations de Dieu et des gens qui tombent par terre, machin et tout. Et il y a des gens qui peuvent penser que la présence de Dieu est là juste à ce moment-là, quand il y a des trucs bizarres qui se passent, quand un prédicateur est éloquent et quand on dit « Waouh, c'est vraiment un homme de Dieu » et là, il y a vraiment la présence de Dieu. Mais rien à voir avec ça. Parce que Dieu s'est servi de personnes dans la Bible. Il s'est servi d'hommes et de femmes tellement simples. L'exemple qu'on prend, Moïse. Est-ce que vous saviez que Moïse, la Bible dit que Moïse avait la langue lourde. C'est-à-dire qu'il avait en fait des difficultés à parler. Et je pense que ça ne devait pas être facile pour lui de communiquer avec le peuple de Dieu. Mais peu importe, parce que Dieu était là avec lui. Et aujourd'hui, on peut se laisser impressionner par l'éloquence d'un prédicateur, on peut se laisser impressionner par un style de musique, on peut se laisser impressionner par toutes sortes de choses. Mais la présence de Dieu, c'est pas ça, c'est bien au-delà de ça. C'est quand on sent les fruits de l'esprit, la joie, la paix, toutes ces choses-là, c'est que Dieu agit. Si tu le ressens dans ta vie, que tu sens ces fruits de l'esprit se développer dans ta vie, c'est que Dieu agit. Je vais faire un petit retour en arrière sur l'histoire du veau d'or que vous verrez si vous le lisez dans Exode 32. Vous avez de la lecture. Je fais juste un petit rappel sur pourquoi est-ce que ce peuple a fait ce veau d'or. En fait, pour revenir sur le contexte, Moïse était parti sur la montagne pour communiquer avec Dieu, pour être en communion avec lui. Et en fait, il était là-bas depuis 40 jours et le peuple d'Israël commençait à s'impatienter, commençait à se dire « Mais où est-ce qu'il est, Moïse ? qu'est-ce qu'il fait, machin et tout. Nous aussi, on aimerait pouvoir communier avec ce Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte. Et ils se sont dit, nous aussi, on veut adorer Dieu. On veut adorer l'Éternel de Moïse. Alors, on va... Et le peuple, en fait, dit tout simplement, mais on ne sait pas à quoi il ressemble, ce Dieu. On ne sait pas... Et Aaron, parce qu'il fallait en nommer un responsable, Aaron, lui, s'est dit, ah, moi, je sais, je pense qu'il doit ressembler à un veau d'or. Bon, je ne sais pas pourquoi, il doit ressembler à un veau. Donc, on va savoir pourquoi. Tout le peuple a dit, on prend tous nos anneaux, toutes nos babioles en or, on va tout faire fondre et on va faire un veau d'or. Et on peut se demander pourquoi est-ce que ce peuple a transgressé les lois, parce que dans les 10 commandements, c'est bien après l'épisode des 10 commandements qui se situe dans Exode 20, où Dieu nous dit tu ne te feras pas de sculpture sacrée ni de représentation de ce qui est en haut dans le ciel, en bas sur la terre et dans l'eau plus bas que la terre. Et même Dieu ajoute, il dit vous ne ferez pas de Dieu en argent et en or pour me les associer, vous n'en ferez pas. Et qu'est-ce qu'il fait le peuple? Lui dit, ok, on va faire un veau d'or. Tout ça juste pour vous dire que ce peuple, il avait soif vraiment de communier avec Dieu. Mais le problème, c'est qu'il ne connaissait pas vraiment Dieu. Il ne connaissait pas vraiment sa présence. Et si nous aussi, on ne connaît pas la présence de Dieu, sa sainteté, son amour, on peut mal définir qui est Dieu. Et on va prendre de mauvaises décisions comme ce peuple qui a fait ce veau d'or. Et on peut interpréter Dieu de toutes sortes de façons. On peut l'interpréter selon sa culture, selon son passé, selon d'où on vient, selon ce qu'on aime, ce dont on a envie. On va se faire une image de Dieu selon ce que nous voulons. Donc si tu n'as pas connu la présence de Dieu, tu ne peux pas interpréter qui est Dieu. Il faut que tu connaisses avant de pouvoir interpréter la présence de Dieu. Et c'est très important pour nous vraiment de connaître cette présence, parce que même dans nos problèmes, dans notre souffrance, dans nos épreuves, dans nos décisions, si on ne connaît pas cette présence, on va mal interpréter ce qu'on vit, ce qu'on est. On va l'interpréter selon notre passé, selon notre famille, selon notre culture. Et on va mal interpréter ce que Dieu vraiment veut pour nous. Et Moïse dit à son peuple, prenez garde, vous n'allez pas dans la bonne direction. Mais ici quand même, on a vraiment un exemple avec Moïse, qui connaissait personnellement Dieu. Et Moïse, comme je vous l'ai dit, c'est quelqu'un d'ordinaire, qui ne savait pas forcément parler en public. C'était quelqu'un vraiment qui était vide, qui a été touché par la présence de Dieu. Mais quand il a connu personnellement Dieu, il savait comment diriger les choses, il savait comment gérer sa vie. Et lorsqu'on est vraiment dans cette présence, peu importe ce qu'on va vivre, on va pouvoir affronter n'importe quelle situation. Peut-être que ce soir, vous avez dans votre vie besoin d'une réponse concrète de Dieu. Peut-être que vous avez besoin d'un ami parce que vous êtes dans une solitude, parce que voilà. Mais ultimement, ce dont vous avez le plus besoin, c'est de la présence de Dieu dans votre vie. Parce que il faut qu'on garde à l'esprit que seule la présence de Dieu peut consoler, peut guérir et peut relever. Seul lui, par sa présence, peut nous diriger. Et j'aimerais vous dire que Dieu veut habiter avec toi. Il veut vivre avec toi. Il veut aller à l'école avec toi. Il veut aller à la fac avec toi, au travail. Il veut une place dans ta voiture. Il veut une place dans ton agenda. Donc fais-lui une place partout. Dieu veut habiter avec toi. tard, toujours dans cette histoire, vous verrez, si vous le lisez chez vous, que Dieu va bénir Moïse. Et est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui est... Moi, je ne connais pas de gens comme ça, mais quelqu'un de trop riche, qui ne sait plus quoi faire de son argent. Eh bien, Moïse, en fait, c'était ça. Ce que Moïse voulait, ce n'était pas plus d'argent, mais c'était juste que le peuple, lui aussi, soit béni. Et vous savez ce qu'a fait Moïse, en fait, pour pouvoir intercéder pour son peuple, parce qu'il voulait aussi que ce peuple connaisse cette présence, connaisse cette relation intime avec Dieu. Il a fait une chose simple. Moïse a tout simplement prié. Il a ouvert son cœur devant Dieu. Il s'est humilié. Et il a juste dit, « Seigneur, viens vivre avec nous. » Et j'aimerais juste vous dire en terminant, aujourd'hui, que Dieu va venir au milieu. Si, comment est-ce que Dieu peut venir au milieu de nous? C'est par la prière. Jésus a dit, « Ma maison sera appelée une maison de prière. » Et Dieu siège quand il y a des prières et de la louange. Et quand on se tourne vers Dieu, Dieu siège et Dieu vient. Cette vérité, elle prend tout son sens dans un verset qui est dans Actes 2, verset 42, où il dit que les chrétiens persévéraient dans la prière. Et moi, ce que j'aimerais vous encourager à faire vraiment, c'est à prier ensemble. En tant que groupe, en tant que personne, individuellement, c'est vraiment d'avoir une vie de prière. Vous ne pouvez pas dire « le pasteur prie, alors je ne vais pas prier ». Vous ne pouvez pas dire « moi je ne peux pas dire « mon mari prie, donc je ne prierai pas ». Non, un chrétien, c'est quelqu'un qui parle avec Dieu, c'est quelqu'un qui a une vie de prière. Et un homme de Dieu a dit « une église qui prie ensemble reste ensemble ». Donc pour vous, STK, le message que j'ai à vous faire passer, enfin que Dieu, je pense, aimerait vous faire passer à travers moi, parce que c'est le message que j'ai eu dans mon cœur, c'est un groupe qui prie ensemble, reste ensemble. Et c'est ce qu'il nous faut, c'est prier. Si on prie ensemble, on reste ensemble. Si on prie ensemble, on grandit ensemble. Si on prie ensemble, on voit la gloire de Dieu ensemble. Et c'est ce qu'on aimerait en fait vous proposer avec ces jeudis, parce qu'on a réfléchi avec le bureau, avec la commission spirituelle, à comment avoir cette communion, cette communauté de prière dans le groupe. Et c'est ce qu'on voulait vous proposer avec ces jeudis, une fois par mois. C'est pas grand chose, mais c'est déjà beaucoup. Et je vous encourage juste, vous êtes là ce soir, et je vous encourage vraiment à persévérer dans votre assiduité à venir à ces temps du jeudi pour pouvoir grandir ensemble. Vous pouvez bien sûr prier à la maison. C'est sûr que ça, c'est bien prier à la maison, mais il y a quelque chose qui touche Dieu. Quand on se met dans sa voiture, quand on dépense du carburant, quand on prend les transports, quand on prend du temps et qu'on fait de la route, il y a une volonté. Une volonté de dire, je veux aller avec mes frères et sœurs en Christ, je veux y aller, je veux être en communion avec eux. Il n'y a rien de fun, il n'y a rien d'extravagant, ce n'est pas un gros truc comme pour des grandes conventions dans ces réunions du jeudi qu'on vous propose, c'est juste un simple temps de louange, un simple message et un simple temps de prière. Mais une chose est certaine, c'est que Dieu a quelque chose pour nous. Juste pour conclure, ce que je vous encourage pour vivre, pour revenir un peu sur le thème, vivre le bonheur, c'est vivre dans la présence de Dieu. Comment on fait pour y arriver? Il faut avoir une vie de prière, une vie de communauté. Voilà, c'est, je pense, le message à retirer de ce passage de Exode. Et je vous encourage à lire la vie de Moïse parce qu'elle est pleine d'enseignements. Parce que Moïse, ça peut être toi, ça peut être moi, ça peut être toi qui amène tes amis dans ce temps de présence de Dieu. Donc, n'ayons pas de crainte, n'ayons pas de timidité, mais allons juste dans la présence de Dieu. Et Je vous invite juste à prier, à prendre la main de votre ami à côté de vous. On va juste prendre un petit temps de prière. Oui, ce n'est pas la meilleure configuration. On peut même se lever si vous voulez. En fait, ça faciliterait peut-être les choses. On va commencer à. Je vous invite vraiment à commencer à prier dans votre cœur. Et Seigneur, et lui dire vraiment, Seigneur, je veux ta présence dans ma vie. Je sais que tu es un Dieu qui est omniprésent, mais pas toujours omnimanifeste, Seigneur. Je veux vivre dans ton habitation, dans l'habitation de Dieu. Je te veux dans ma vie, Seigneur. Je te veux, je te désire. Viens, Seigneur, dans ma maison. Viens avec moi dans mon foyer. Viens dans ma vie. Viens dans ma famille. Je veux être dans ta présence. Je ne veux pas juste la réussite. Je ne veux pas juste le succès. Mais je te veux, toi, Seigneur. Je veux marcher avec toi. Je veux ta présence. Je veux ta présence, Seigneur, aussi dans ce groupe. Je veux la Shekinah. Je veux ta présence, une plus grande mesure, de plus en plus, Seigneur, dans chaque réunion. Et Seigneur, c'est avec foi que nous proclamons que tu le feras. C'est avec foi vraiment que nous croyons que tu honoreras cette promesse et que tu seras avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est dans le nom de Jésus que nous prions. Amen.